À l'écoute des solidarités, saison 3.
On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire.
Il faut cultiver notre jardin. Oui, d'accord, mais comment faire lorsqu'on est un paysan ou une paysanne qui vit sous le seuil de pauvreté ? Qu'un type en costume vient vous voir, vous propose de racheter ? Vous resterez sur la ferme, rassurez-vous, mais en tant que salarié, avec ce revenu que vous n'avez jamais pu vous verser. C'est la multinationale qui fournira les semences, les bidons de pesticides. Vous n'êtes pas d'accord ? Très bien, vous pouvez toujours vous endetter, toujours plus. Après tout, n'est-ce pas là la seule solution ? Cette révolution verte, grande révolution agricole des années 60, qui devait guérir le monde de la famine que nous devons tous adopter aujourd'hui ? Vous trouvez ce tableau un peu fallacieux ? Eh bien tant mieux, car ce sont d'autres systèmes agricoles que celui-là, celui de l'agrobusiness, que nous allons parler. Nous sommes en presque direct des universités d'été, des mouvements sociaux, à Bobigny. Je suis Violette Voldoir.
Je suis Germain Filoche.
Et vous écoutez « À l'écoute des solidarités », un podcast du Festisol. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si nous sommes condamnés à couvrir la planète avec du mauvais maïs et du mauvais soja, ou si nous pouvons développer d'autres systèmes agricoles un peu plus intelligents. Nous en parlons d'ailleurs aujourd'hui avec Claude Giraud, qui nous parle au nom de la Via Campesina. Je vous laisserai peut-être décliner vos autres casquettes si vous en avez. Bonjour.
Bonjour. Je suis membre de la Confédération Paysanne, qui est membre de Via Campesina International.
À vos côtés, Serge de Buzurna Juzuruna, qui veut dire littéralement « nos graines sont des racines ».
Ou « nos graines, nos racines » sans le son, mais ça peut s'articuler dans tous les sens qu'on veut. Mais bon, les graines d'abord, les racines après.
Les graines d'abord, les racines après. On y viendra d'ailleurs à cette question qui harponne le sujet des semences paysannes assez directement. Buzurna Juzuruna, c'est une ferme-école libanaise située, je vous laisse le prononcer,
À Saad Neil, c'est en plein milieu du centre de la Bekaa, qui est un plateau qui est entre 800 et 1000 mètres à peu près. Nous, on est à 950 et c'est la grande plaine agricole du Liban, entre deux chaînes de montagnes.
C'est également un lieu où vous faites de l'agroécologie.
Tout à fait.
Et notre troisième invité est à distance, il est au Bénin, il s'appelle Patrice Sagbo. Vous êtes membre de Jinkun, c'est une organisation de défense des semences paysannes. Vous avez plein d'autres casquettes aussi, notamment celle de membre de la Fédération de l'agroécologie du Bénin. Est-ce que vous nous entendez bien, Patrice ?
Très bien.
Je vous laisserai expliquer plus en détail. Qu'est-ce que Jinkun, justement, cette organisation de défense des semences paysannes, très rapidement ?
C'est le réseau national pour la gestion durable des ressources génétiques. Et l'explication de Jinkun en langue nationale égale semence. Ce que nous faisons, c'est que nous défendons les droits des paysans sur les ressources génétiques et nous défendons également le droit à la souveraineté alimentaire.
Merci beaucoup, Patrice. On va revenir à cette question justement des semences paysannes ou non paysannes, de l'accaparement aussi des semences. On a parlé dans l'épisode précédent de l'accaparement des terres et cette fois, on va vraiment s'attacher à ce que l'on y plante. Mais pour commencer à rentrer dans cet échange, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un documentaire qui est vieux, presque aussi vieux que moi, qui s'appelle Ilas das Flores, qui date de 1989 et qui aborde avec, disons, une pointe d'espièglerie la manière dont fonctionne le système agricole, justement hérité de cette pensée des années 60. On va écouter ça tout de suite.
Le télencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates. La tomate, contrairement à la baleine, à la poule et aux japonais, est un végétal. Plante de la famille des solanacées, la tomate commença à être cultivée pour ses qualités alimentaires à partir de 1800. La planète Terre produit environ 61 millions de tonnes de tomates par an. Monsieur Suzuki, bien que travaillant environ 12 heures par jour, est responsable d'une partie infime de cette production. L'utilité principale de la tomate est l'alimentation des êtres humains. Monsieur Suzuki est un Japonais, et donc un être humain. Cependant, Monsieur Suzuki ne plante pas des tomates dans l'intention de les manger. Presque toutes les tomates produites par Monsieur Suzuki sont livrées à un supermarché en échange d'argent. L'argent a probablement été créé à l'initiative de Gyges, roi de Lydia, grand royaume d'Asie mineure, au 7e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà, vous venez donc d'entendre un court extrait d'un court documentaire qui doit faire à peu près 15 minutes. Il s'appelle donc Ilas as Flores. Et alors, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que tout est donc bien résumé là? Finalement, on n'a peut-être pas besoin de faire cette émission. On plante des tomates, non pas pour les manger, mais pour les vendre et alimenter un système mondial avec de l'offre et de la demande. Est-ce que c'est ça le sujet finalement, Claude Giraud, je m'adresse à vous. On n'en fait plus des salades, mais finalement d'abord du commerce, puis ensuite des salades, éventuellement de la sauce tomate.
C'est presque vrai. Deux choses, c'est que nos agricultures se sont spécialisées. On a spécialisé les productions. On nous a poussé à ces spécialisations parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on soit plus rationnel, plus compétitif. Et c'est également un peu plus facile parce que sur une ferme, quand on fait toutes les productions puis qu'en plus on a des animaux, on peut pas venir à l'université d'été des mouvements sociaux. On peut pas prendre de vacances.
Vous pouvez pas emmener vos animaux non plus comme au salon de l'agriculture.
Non. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que notre métier d'agriculteur est quelque part déconnecté de notre revenu. D'abord, nous produisons, quelle que soit la production, et après, eux décident de notre rémunération. C'est-à-dire, eux, c'est le système qui décide des cours, de l'argent qui peut être généré par cette production.
De ce à quoi vous avez droit pour pouvoir vendre cette production. Patrice, je vous pose aussi la question à vous. Est-ce que le problème que vous rencontrez, c'est justement celui-là, le fait de ne pas du tout avoir le pouvoir de décider à quel prix les denrées alimentaires qui sont produites au Bénin et dans les réseaux de paysans que vous connaissez, sont décidées, c'est-à-dire être dépendant de la rémunération des paysans?
C'est oui et non. Non, parce que pour les produits ouvriers, le paysan est libre de faire son choix. Je dis le maïs, par exemple, mais le paysan est libre de fixer son prix. Ça, là, c'est libre. Pour les produits d'exportation, comme le coton prioritairement, le noix d'acajou, le karité, etc. Donc, pour les produits d'exportation, c'est le gouvernement qui décide du prix auquel les paysans vont lui vendre leur coton. C'est le gouvernement qui fournit tous les intrants. L'exemple le plus frappant actuellement, c'est le cas du soja. Où sont les producteurs eux-mêmes sur leur propre terre ont produit leur soja et le gouvernement leur interdit de vendre le soja au prix auquel ils veulent et à qui ils veulent le vendre. C'est un drame. Ils ont protesté pour dire qu'ils ne veulent pas ça. On a mis les agents de douane et la police à leur trousse et on a saisi toute leur production et des gens sont envoyés également en prison. C'est ça la réalité actuellement.
Justement, on va arrive vite à cette question de la maîtrise ou pas, puisque je vous posais la question du prix un peu à dessein. Une fois que, disons, le produit agricole est sorti de terre ou est sorti de l'étable, très bien, on peut juger du prix auquel il peut être vendu ou non sur le marché international. Mais peut-être on peut revenir un peu au départ, c'est-à-dire avant que ce produit ne soit produit. Serge, justement, quel est le problème en fait? C'est vrai que c'est difficile quand on aborde cette question du système agricole de savoir par quelle porte entrer. Est-ce qu'il faut d'abord commencer à réfléchir et à faire un travail d'analyse critique sur les prix du lait, par exemple, ce que peut faire en France la FNSEA, en disant voilà, il faut négocier les prix du lait, c'est hyper important. Ou bien est-ce qu'il faut réfléchir en amont, c'est-à-dire au niveau des semences, combien les semences sont vendues aux paysans, sont-ils ou sont-elles maîtres et maîtresses de leurs semences, etc. À quel niveau du système vous entrez pour expliquer le problème, quoi, on va dire?
Alors, expliquer le problème, c'est un peu trop grand, au-delà de nos compétences.
Tenter
peut-être.
Tenter de l'expliquer,
mais
voilà,
une
approche,
un fil sur lequel on essaie de tirer. On a accès à quoi, d'abord? Et si on a accès à, disons, des choses A, B, C, comment est-ce qu'on a accès à ces choses? Du coup, si on veut produire notre alimentation, avant de penser à l'export, avant de penser à la commodification de l'alimentation, si on veut juste la produire, on a besoin, en conventionnel, on a besoin de semences, on a besoin d'intrants chimiques, et on a besoin de pesticides. Et en plus, on a besoin de machines, et ça veut dire qu'on a besoin de carburant. Du coup, très rapidement, il y a ces piliers-là. Je vous donne l'exemple du Liban. Notre expérience, ça fait 6-7 ans qu'on produit dans une zone qui est presque uniquement conventionnelle. Du coup, c'est de la monoculture, que de la patate ou que du blé ou des trucs comme ça.
Donc, ils vont alimenter l'agro-industrie derrière pour fabriquer des produits transformés et ensuite revenir dans les marchés ou les supermarchés, enfin surtout les supermarchés, sous forme transformée. C'est pas de l'agriculture qui vient venir alimenter l'étal d'un marché où il y a des fruits et légumes, par exemple.
Pour les pommes de terre, si. C'est, sauf qu'il y a un autre problème de monopole du marché au Liban. Du coup, il y a encore une autre problématique sur ça. C'est des gens qui choisissent d'importer, de casser les prix. Et du coup, la production locale, la plupart du temps, ils la jettent. Ou bien elle est reprise à vraiment très bas prix par les mêmes personnes qui monopolisent l'import et qui contrôlent les marchés locaux. Du coup, ça, c'est encore un autre truc. Mais le problème de base, c'était un moment où il y a eu l'effondrement de notre monnaie. Et comme toutes les semences étaient importées, ça c'est entre 2019, fin 2019 et 2022. Là, c'est plus ou moins stabilisé niveau monnaie qui a perdu, genre, je sais plus le chiffre, genre 800 fois sa valeur, un truc comme ça, un truc extravagant. Et du coup, comme cette semence, c'est une semence hybride produite par des entreprises et des multinationales étrangères, il faut la payer en dollars. Sauf que le dollar, ça valait énormément plus pour un paysan qui vend ses tomates en livres libanaises. Du coup, je vais caricaturiser un peu, mais disons des semences, disons un sachet de semences qui coûtait un dollar coûte maintenant 46 dollars. Alors que lui, il est en train de vendre ses tomates toujours à 2 dollars parce que, à l'équivalent en livres libanaises, du coup, La dévaluation de la monnaie, juste ça, a fait qu'une très grande partie des paysans ne pouvaient plus produire parce qu'ils n'ont ni accès aux semences, ni accès aux pesticides, ni accès aux... j'arrive pas à dire fertilisants. On va les appeler intrants parce que c'est très... bref, mais voilà.
Non, vous ne voulez pas le dire, c'est un...
Ouais, il y a un truc qui bloque dans ma gorge, mais...
Ce goût amer du pesticide.
Ouais.
Claude Giraud, est-ce que c'est donc par là qu'il faut aborder cette question, le fait que l'agro-industrie, ou disons l'agro-business, qui réunit à la fois la partie agriculture intensive, mais aussi sa transformation, le problème étant que ce sont eux qui ont la maîtrise des semences, de ce qu'on plante.
S'ils n'avaient que la maîtrise des semences, ça serait presque facile. Mais voilà, chez nous, tout se monnaie, quoi. Bon, il y a les carburants, il y a l'eau, il y a... Et là-dedans, les paysans en France doivent se débrouiller pour faire un revenu. L'autosuffisance alimentaire, bien sûr, on la recherche, parce qu'on n'a pas, des très gros revenus, mais on ne peut pas vivre de ça, parce que nous avons des enfants, parce que nous avons des charges, parce que nous vivons dans des déserts où il faut une voiture, enfin voilà, et c'est un combat tous les jours. Et c'est pas que le combat des petits contre les gros, qui ce n'était que ça encore. Vous savez pertinemment qu'il y a eu beaucoup de suicides de paysans en France, et ce n'était pas des petits paysans, c'était des gens qui s'étaient modernisés.
Est-ce que ça tient aussi au fait que l'agriculture est souvent décrite comme fonctionnant à partir de l'endettement ? C'est-à-dire que pour pouvoir cultiver une terre, il faut acheter des moyens de production, il faut des semences, on les achète une première fois, puis ensuite peut-être on peut réutiliser une part de ce que nous n'avons pas vendu pour replanter, mais qu'en tout cas, la condition même du paysan ou de la paysanne, c'est de s'endetter. Et donc, l'agro-business n'est qu'un prolongement de ça. Ils vont désormais s'endetter et elles vont s'endetter pour acheter des intrants, des pesticides, de nouvelles semences chaque année, des machines toujours plus grosses, etc. Est-ce que c'est une sorte de continuum, tout ça, ou est-ce qu'il y a quand même eu des vraies ruptures ?
Cet endettement, il est intrinsèque aussi à l'agriculture dans notre pays. Il faut savoir que partout dans le monde, l'agriculture, c'est beaucoup de capital investi pour peu de rentabilité. Et même en agriculture intensive. On est dans un cercle vicieux. Il faut avoir un certain nombre d'hectares pour être considéré comme paysan, par exemple, pour avoir droit à ce statut.
En France ou au niveau, à l'échelle internationale, ça fonctionne aussi comme ça ?
À l'échelle européenne, les niveaux sont différents, mais en France, c'est ça. Si vous avez une trop petite surface, ben vous êtes jardinier, vous êtes un amateur, vous n'êtes pas un paysan. Et tout le système est fait pour l'endettement. Moi, quand je me suis installée, donc je suis maintenant en retraite, il y a quand même quelques années, à l'époque, la banque a hurlé de rire quand j'ai présenté mon projet d'investissement. Parce qu'ils m'ont dit, mais avec ça, avec si peu d'investissement, mais nous, on ne va rien gagner, madame. Et je leur ai répondu, le but, c'est que moi, je gagne, pas vous.
Ils vous ont quand même prêté l'argent ou pas?
Ils m'ont prêté l'argent, mais c'est parce que je ne suis pas issue du milieu paysan et que ma famille pouvait apporter une caution.
Germain.
J'ai une question, parce que quels sont les autres obstacles au fait que vous ayez une agriculture qui corresponde à peu près, en tout cas, à la manière dont vous concevez vous-même l'agriculture?
Je pourrais rester là toute la nuit pour vous dire ça. Les obstacles, ils sont partout, quoi. Ils sont pas que dans le fait de produire, d'avoir un statut, mais bon, de vendre aussi, d'avoir une considération, que nos savoir-faire soient reconnus. Enfin,
c'est large, ouais.
C'est très intriqué aussi.
Ça, c'est le cas en France, mais voilà, au Liban, est-ce que... comment vous pourriez répondre à cette question?
Sur ça, et aussi des trucs beaucoup plus terre-à-terre, littéralement d'accéder à la terre. Alors, Liban, c'est un tout petit pays, les zones agricoles, c'est vraiment tout petit dans un tout petit pays, et c'est accaparé par des féodaux, il y a pas un autre mot pour les décrire, c'est des gens qui se passent de génération en génération des centaines et des centaines d'hectares et chez qui les paysans travaillent. C'est-à-dire que le paysan au Liban, la plupart du temps, il n'est pas propriétaire de son terrain, il est locataire chez quelqu'un qui lui, je trouve pas d'autre mot que pompe toutes ses ressources, en fait. Du coup, ça, c'est aussi un gros truc. Bon, maintenant, on a un nouveau problème, c'est l'eau, mais c'est encore mitigé. Mais ça va venir. Hein. On commence à voir ce que c'est de ne pas avoir de pluie à partir d'avril, mai.
Et d'avoir un accaparement aussi des ressources en eau. On vient de finir d'enregistrer un épisode de à l'écoute des solidarités sur la question de l'accaparement des terres, du point de vue notamment des peuples autochtones. Ce dont nous n'avons pas parlé dans cet épisode, mais qui concerne aussi notre sujet, c'est l'accaparement des terres par des petits propriétaires ou des moyens propriétaires qui ont quand même comme objectif de faire des parcelles toujours de plus en plus grandes pour faire de toujours plus d'intensifs et donc aller chercher des ressources pompées dans les aquifères, dans les nappes phréatiques et donc épuiser des ressources qui pouvaient être auparavant des communs. Je voudrais donner la parole à Patrice sur cet enjeu des semences parce que c'est là-dessus que vous vous battez. Concrètement, Patrice, comment est-ce qu'au Bénin, vous gagnez un peu sur vos combats parce qu'on a besoin d'espoir un peu, pour avoir vous-même la maîtrise de vos semences?
Je vais vous dire, par rapport aux semences, il y a deux systèmes au Bénin. Il y a le système industriel et le système paysan. Le système industriel est fortement soutenu et encouragé par le gouvernement béninois, qui n'a même pas une politique interne de gestion des semences. La politique du Bénin est arrimée sur celle de la CEDEAO. La politique de la CEDEAO qui donne priorité aux semences hybrides dans notre pays. Ça veut dire multinationales. Donc, dans le document, il est clairement dit qu'on ne fait aucune confiance au système semencier paysan. Récemment, il y a moins d'un an, nous avons été surpris par l'arrivée dans notre pays d'une variété de maïs jaune. On n'en a jamais vu dans notre pays. Jamais vu. Et on a dit que le kilogramme de ce maïs coûte 3500 francs. 6 euros, je vais dire. Nous n'en avons jamais vu. Il n'y a eu aucune explication autour de ce maïs-là. Lorsque vous achetez ce maïs-là, vous plantez une fois, c'est terminé, vous ne pouvez plus.
Est-ce que vous êtes parvenu à alerter justement le gouvernement béninois sur le risque que ça comporte d'avoir ce genre de semences? Et qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Je vous ai dit que depuis 2017, le gouvernement a envoyé un dossier à l'Assemblée nationale pour demander son autorisation après adhérer le Bénin à l'UPOV. Si on dit UPOV, vous savez que c'est semences.
L'UPOV, il va falloir expliquer ce que c'est parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Si vous permettez, je repasse la parole rapidement à Claude Giraud. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu juste ce que c'est ce sigle UPOV? C'est une institution importante et qui est assez mal connue sur cette question du système agricole.
C'est une institution qui, euh, qui cadre ce que doit être une semence végétale. Ce qu'ils veulent, c'est une production homogène.
Aujourd'hui, on est en train de chasser les pauvres de notre pays. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a réussi. Si nous avons fait, nous avons pu faire échec aux organismes génétiquement modifiés en Afrique de l'Ouest, c'est parce que nous avons lutté et ça a porté.
Ce qu'explique notre ami du Bénin, c'est que c'est très difficile d'avoir, de conserver ces semences et de les commercialiser. Un agriculteur chez nous peut conserver ses semences de blé, de maïs, d'orge ou n'importe quoi, et pour l'alimentation du bétail, pour lui-même, mais pour les revendre, c'est très compliqué, parce que c'est des semences fermières, c'est pas des clones, les plantes, elles sont différentes les unes des autres. Et c'est parce qu'elles sont différentes les unes des autres qu'elles ont traversé les temps. Parce qu'il y avait un épique qui était bon pour l'année d'après, puis l'autre pas. Mais dans l'ensemble, avec cette biodiversité, on pouvait les garder. Alors que maintenant, c'est pas possible. Un hybride, il a un mode de culture obligatoire. Autrement, il est improductif, il n'est pas rentable.
Ce qui explique que les tomates se ressemblent toutes, que les maïs se ressemblent tous sur les marchés, qu'il y a une sorte d'uniformisation, mais aussi, disons, d'absence totale de considération que pour cultiver une terre, il faut à la fois des semences, il faut de la terre, c'est quand même mieux, mais il faut aussi des conditions qui sont adaptées aux espèces qu'on plante. Est-ce que ça, ce dogme-là, vous sentez, Serge, qui commence un petit peu à bouger, cette espèce de trio, là, de Sainte Trinité, de... On va planter n'importe quoi, n'importe où, en mettant n'importe quel, enfin pas n'importe quel pesticide, mais un pesticide ou une collection voilà de chimie qui va permettre de cultiver n'importe quoi, n'importe où. Est-ce que ça commence à bouger un peu ou est-ce qu'on est quand même encore dans l'imposition par la force de ce système agricole?
Je dirais que ça commence à bouger, mais très lentement et c'est un système hyper rigide parce que il y a toujours cette obsession et ce danger chez les agriculteurs de faire du profit, ça veut dire de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, et s'ils n'ont pas une quantité suffisante de production, ils n'ont pas un revenu qui va leur permettre d'utiliser cet argent pour autre chose. Et du coup, ce qu'on oublie toujours, c'est que ces semences-là, les semences hybrides, les F1, c'est un package. Et du coup, ensemble, ça marche. Mais s'il en manque un, s'il développe une adaptation, une résistance à ces intrants chimiques, il va falloir en mettre plus. Et tous les ans, c'est encore plus. Du coup, ça défonce les sols. Du coup, les sols, ils sont de moins en moins vivants. Du coup, ils s'érodent et on rentre dans un cercle vicieux. Et les agriculteurs, ils comprennent pas parce que à aucun moment, les vendeurs, là, les commerçants, ils leur ont dit que, ouais, en fait, ce que t'es en train de balancer sur ton terrain, c'est en train de tuer la microbiologie du sol et ils sont pas informés. Et ça fait maintenant 40 ans qu'ils sont dans cette habitude-là. Et du coup, c'est très compliqué pour eux d'en sortir. Faut vraiment faire l'effort de passer le temps avec chacune de ces personnes-là pour leur montrer par le détail comment cette pratique est en train de détruire les sols et de détruire le climat et de détruire leur production.
Germain.
Est-ce que justement tout ça, c'est pas fait pour éviter que vous sortiez du système? Et si c'est possible, est-ce que c'est possible de faire coexister plusieurs systèmes?
Alors, est-ce que c'est possible de sortir du système? Moi, je dirais oui, mais ce n'est pas aussi simple. Sortir du système, c'est une transition. Et la plupart des paysans, en tout cas au Liban, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ils n'ont pas les moyens de faire la transition. Parce que passer vers une pratique agroécologique, sans oublier qu'il y a plein de pratiques différentes, nous on utilise le mot agroécologie, mais il faut déjà qu'on s'entende sur ce que ça veut dire. Pour nous, en tout cas, parce que même au Liban, deux paysans qui sont en agroécologie, c'est pas la même chose. Du coup, pour nous, c'est construire un écosystème ou reconstruire un écosystème et à partir de là, avoir une production alimentaire aussi diversifiée que possible, mais pas seulement, c'est pas juste centré sur la production, c'est centré sur le social, sur tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire une économie à circuit court, ça veut dire une mentalité d'entraide, de coopération, de travailler ensemble et de diversifier pas seulement les pratiques, mais les approches de ces pratiques-là. Et bien sûr, pas de chimique.
Mais c'est aussi un renoncement au profit, en tout cas la maximisation du profit.
On va pas devenir riche, mais au moins on va quand même avoir des vies décentes, surtout quand on est en diversifié, et ça veut dire plusieurs entrées qui font que nous avons une production constante toute l'année, et ça peut mitiger pertes, entre guillemets. Ce ne sont pas des pertes, c'est juste... Pour nous, c'est un réajustement avec la réalité climatique déjà. Et en plus, comme c'est un système fondé sur le social, le consommateur, il est aussi responsable de cette production. Ça veut dire qu'il est avec nous dans le même bassin, je sais pas comment on dit, dans le même... Ça veut dire qu'on est...
Dans le même panier
est...
de crabes, peut-être.
Par exemple. Et du coup, on porte tous la responsabilité ensemble, ce qui fait que s'il y a des pertes, si la saison est mauvaise, s'il n'y a plus de pluie, si, je sais pas, plein de si, les consommateurs, ils sont avec nous, responsables de ça. Du coup, leur engagement, c'est de payer pour nous permettre de rester à niveau. Ça, c'est dans l'idéal. Hein. Ça, c'est dans un monde parfait. Après, sur le terrain, c'est plein de détails et de complications.
Alors, le monde parfait, en tout cas, un monde qui ne peut pas être pire, qui ne s'annonce, puisque si je reviens à la France, c'est le collectif Nourrir qui avance le chiffre de 200 fermes qui disparaissent chaque jour. Ce sont des dizaines de milliers de paysans qui ont disparu, tout simplement, au cours de ces 20 dernières années. Un tiers, en fait, de la force de production paysanne en France a disparu au cours de ces 20 dernières années. C'est une population qui vieillit, qui ne trouve pas de repreneurs, de repreneuses. Bref, être paysan ou paysanne, ça ne fait pas rêver en France. Et les nouveaux modèles, les autres systèmes agricoles dont Serge a parlé, dont l'agroécologie fait partie, ne sont pas réellement enseignés dans les écoles. Malgré tout, il y a quand même une nouvelle génération qui monte, mes camarades, notamment à AgroParisTech. On va écouter un extrait de la cérémonie de remise des diplômes de 2022, donc de l'année dernière, au cours de laquelle il s'est passé quelque chose d'assez nouveau pour une école d'ingénieurs spécialisée dans les questions agricoles.
Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
Des applaudissements fournis, bien mérités. Est-ce qu'il y a une réaction, Claude Giraud ?
Ah ben oui, bravo, merci. C'est ce qu'on dit depuis des années, c'est ce pourquoi on se bat, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à tout le monde, même dans les radios, dans les universités d'été, mais surtout aux partis politiques. Et quand vous dites, ça ne fait plus rêver l'agriculture, si, il y a des jeunes qui rêvent d'être agriculteurs. Seulement, c'est dur, là. C'est pas facile pour eux. Mais c'est un métier qui fait rêver, parce que être fier de son métier et de sa vie, c'est quand même quelque chose, quoi. Et ça devient très tellement rare que ça fait rêver, oui, bien sûr. Moi, je fais encore partie des gens qui en rêvent.
Vous partagez ce rêve aussi avec oui. D'autres, notamment via la conf. Et
puis, on se bat pour qu'il y ait de plus en plus de paysans. La moitié des paysans en France ont plus de 50 ans, quand même. Hein. Et nous, on dit on veut 1 million de paysans en France. Et on pourrait. Il y a des fermes énormes, des plus de 100 hectares, il y en a partout. Parce que 100 hectares, c'est 100 fois une prime PAC.
Une prime politique agricole commune qui... Ouais, ça demanderait qu'on fasse encore un cycle d'émissions, mais c'est très intéressant aussi de pointer que le modèle de financement de ce système agricole, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, dépend aussi de
l'agrandissement, de la taille des fermes.
Voilà, et rejoint donc la problématique de l'accaparement des terres. Si les propriétaires qui achètent des terres font des parcelles toujours plus grandes, ça n'est pas pour rien, c'est parce que les financements les y poussent aussi. Mais j'aimerais savoir si dans le public qui est avec nous, il y avait une réaction aussi. Vous pouvez vous approcher, prendre le micro, vous présenter et faire part de votre question, de votre remarque.
Bonjour, Zoé de l'association Starting Block. Et je voulais partager avec vous, plutôt pour parler d'éducation, donc ça fait aussi écho à ce que... vient de dire Claude maintenant sur le fait de partager la passion et les réalités des paysans et des paysannes. Donc, c'est pas que ça me fait pas rêver d'être paysanne, peut-être que ça pourrait, mais du coup, on coordonne au niveau Île-de-France le Festival des Solidarités dont fait partie ce podcast, et aussi le Festival Alimentaire qui est une campagne citoyenne qui parle des enjeux d'alimentation toute l'année par sa plateforme dans laquelle il y a beaucoup de ressources à aller chercher, et aussi lors d'un mois de festival documentaire. Tout ça pour dire que la question que j'ai envie de poser aussi, c'est comment on parle de ces sujets qui sont très compliqués, très systémiques, comme vous venez de le dire. Il faudrait plein d'émissions pour pouvoir tout aborder. Donc comment on arrive à parler de ça à tous les publics, potentiellement des enfants ou des personnes qui ont toujours grandi à Paris avec très très peu de terre autour. Comment on fait aussi, on fait corps avec le monde paysan en France et aussi dans le monde. Et on parle d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale ou mondiale. Une des réponses qu'on apporte, c'est de partir d'abord de l'expérience vécue, potentiellement pour les enfants, le petit déjeuner. Qu'est-ce que ça va être le petit déjeuner? Est-ce que c'est, on parle du chocolat, le chocolat c'est produit où? Et après, essayer de dépasser ce stade-là pour aller vers l'aspect systémique et donc les liens qu'il peut y avoir entre les différents acteurs et actrices, mais aussi les liens de pouvoir, etc. Par le jeu, la modélisation, on essaye de pas trop simplifier, mais plutôt d'avoir des jeux. Donc je sais pas, c'était une réaction pour pouvoir parler aussi d'éducation et des campagnes citoyennes avec vous. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce sujet.
Est-ce que vous voulez faire un grand jeu des pesticides?
Oui, il y en a un escape game, il y en a.
Un escape game du système agro-industriel. Faut pas le faire trop grand parce que sinon c'est déprimant. Merci beaucoup, Zoé. Effectivement, l'enjeu de l'éducation est très important. Et peut-être je voudrais faire réagir Patrice rapidement aussi là-dessus, parce que c'est aussi quelque chose qu'on avait évoqué en préparant l'émission, mais très rapidement. Est-ce que pour vous, l'éducation, la sensibilisation aussi aux nouvelles générations, c'est quelque chose d'important que vous voulez porter, disons, dans le combat qui est le vôtre pour la défense des semences paysannes au Bénin?
Très clairement. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. Je vais revenir sur ce que je vous avais dit. Est-ce qu'il y a espoir? Il a complètement espoir. Je viens du centre du pays où nous avons formé plus de 100 organisations paysannes. Ça, c'est du mercredi dernier à hier. On l'a fait sur l'agroécologie. C'est la seule solution qui vaille aujourd'hui, parce que c'est ce que nos paysans avaient fait. Donc, on a commencé par les paysans. On a sensibilisé les décideurs pour dire eux-mêmes ce qu'ils introduisent dans le pays de Maubert, ils ne mangent pas ça. Et aujourd'hui, il faut introduire l'agroécologie dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et à l'université. Heureusement, la sœur du Haut vient de nous écouter et a voulu créer pour les universités et dans les collèges aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle.
Donc, il faut vraiment une lutte assez globale et générale. Il y avait une autre réaction dans le public.
Donc, bonjour, c'est Vincent Huss de Ingénieurs sans frontières. Et du coup, ma réaction, c'était un sourire toujours à entendre la copine d'AgroParisTech pendant son discours sur la désertion. Puisque du coup, du côté d'Ingénieurs sans frontières et en particulier d'un collectif d'agronomes à Ingénieurs sans frontières, donc les agronomes, c'est des ingénieurs qui bossent dans les métiers agricoles, ça faisait quelques temps qu'on réfléchissait sur en fait, notre rôle qu'on joue dans tout ce système-là. Et on a publié en 2021 un manifeste pour une formation citoyenne des agronomes, dans lequel justement on revient sur tous les travers, et en fait on dénonce le fait qu'aujourd'hui un agronome il est là, et c'est pas juste les agronomes qui le décident, c'est les écoles qui forment des agronomes pour l'employabilité de leurs agronomes, donc en gros former des gens qui auront du succès dans des grandes boîtes.
Excuse-moi, mais est-ce que c'est facile de porter justement cette parole au sein des écoles d'ingé? Ce ne sont pas les étudiants ou les centres universitaires, ni même les lieux de formation les plus politisés, voire même au contraire, c'est plutôt pas trop le cas. Donc, est-ce que ça a été compliqué de porter cette parole là-bas?
Alors, c'est très compliqué de faire entendre ces paroles-là dans les écoles d'ingénieurs, puisque en fait, l'État lui-même en France donne une orientation aux écoles d'ingénieurs. On le voit aujourd'hui, il y a une accélération du développement du high-tech dans l'agriculture, avec un État qui force beaucoup sur la robotique, la génétique, donc le développement des OGM, des drones, de l'imagerie satellite dans l'agriculture. Ça fait partie de plans qui sont enseignés, qui sont forcés dans les écoles. Et donc, en fait, aussi un système très descendant, qui est moins démocratique qu'une université, quand on parle d'une école d'ingénieur, avec en fait des entreprises qui sont aussi membres du conseil d'administration et qui cherchent aussi à faire sortir une employabilité, même si...
Ils cherchent à vous placer dans des boîtes.
On cherche à nous placer
mais
dans...
Mais c'est vachement bien ça, sinon vous n'avez pas de travail, comment faire sinon? Non mais il y a aussi cet argument-là, je plaisante un peu, mais de vous dire, en fait si vous voulez bosser, il faut vous faire au système quoi.
Alors ça fait partie du système, après ça reste un système qui a ses alternatives. Il y a des professeurs, il y a des cursus qui permettent de travailler, mais ça reste une marge. Et donc nous, c'est pour ça qu'on travaille sur ce manifeste, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs les ingénieurs qui ont rédigé ce manifeste, on est pour la plupart des ingénieurs qui avons pris des cursus, des petits cursus un peu parallèles, ou qui sont qui avons été formés dans des spécialités qui bossent avec des ONG, qui visent l'agroécologie ou qui permettent de...
Donc il faut demander à ne plus avoir de cours avec Total, Vinci et Bayer, mais avoir des cours avec des profs qui viennent d'ONG et qui ont d'autres manières de faire.
C'est ça, ça fait partie de ce genre de choses, mais c'est aussi défendre une autre vision de l'ingénieur dans le partage des tâches du travail, puisqu'en fait, le modèle agricole très technique et productiviste a un peu formé des ingénieurs qui, pour caricaturer énormément, sont la courroie de transmission des toutes dernières technologies, des toutes dernières innovations scientifiques et des tout derniers produits que vendent les multinationales et les grands groupes capitalistes. Mais nous, on défend le modèle d'un ingénieur, quitte à former des ingénieurs pendant 5 ans, sur des questions agricoles, c'est qu'ils puissent faire autant remonter que redescendre des problèmes et participer en fait à une élaboration démocratique des pratiques techniques pour aller vers de l'autonomie alimentaire. Donc c'est considérer que l'ingénieur, il sait parler un peu tout le monde et qu'il peut jouer ce rôle d'animateur. Mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir des cours de RH, de marketing, c'est aussi avoir des cours de médiation, de sociaux et de faire rentrer des sciences sociales dans l'agriculture.
Serge, peut-être une petite réaction à ce témoignage. Merci beaucoup d'être venu nous partager ça au micro. Et puis, alors oui, Serge, est-ce que tu veux réagir
justement? Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Franchement, parce que là, chez nous, là, au Liban, les universités, ce qu'elles forment, c'est pas des ingénieurs exactement, c'est plutôt des commerciaux. Alors, leur travail, c'est de nous vendre du poison. Alors, n'importe quel problème... que ce soit un petit champignon ou des sauterelles ou je sais pas, c'est tu sprays ça et tu reviens demain et tu resprays ça. Il y a aucun rapport direct entre un agronome et le terrain. Ils savent pas vraiment sur le terrain ce que c'est. Ils sauraient pas faire la différence entre un plant de pastèque et je sais pas un tournesol. Je veux dire, c'est terrifiant déjà qu'ils aient les mains dans la boue. Je veux dire que genre, qu'ils aient utilisé une pelle une fois dans leur vie, avoir quelques ampoules, comprendre ce que c'est quand il y a des oiseaux, tout ça, genre des trucs vraiment de sensibilité de base, et à partir de là comprendre qu'on est en train de travailler avec le vivant, pas avec le mort. Je veux dire, c'est... Je sais pas, je trouve ça la base de la chose, quoi.
Peut-être que c'est une manière aussi de rebrancher avec la notion de semence comme un patrimoine, pas seulement un patrimoine vivant, mais un commun, un patrimoine culturel et une richesse, et non pas, comme le disait aussi très bien Patrice, d'avoir un gouvernement qui va considérer que l'enrichissement, c'est l'argent qu'on peut tirer de l'exploitation d'une terre, quitte à la tuer et quitte à la stériliser. Germain, peut-être un dernier mot avant de conclure cet épisode.
Ouais, c'est sur la responsabilité du consommateur. On en parlait, mais évidemment, il y a une responsabilité des agronomes. Mais il y a aussi une responsabilité du consommateur. À quel point, Claude Giraud, par exemple, vous pourriez dire que on pourrait éduquer justement les consommateurs à réapprendre d'une certaine manière à consommer, par exemple, de saison, ou même à consommer des produits locaux, ou à se restreindre parfois, parce que on a aussi en France, pas mal de prétentions. En tout cas, on aime bien consommer des produits exotiques, des avocats, même du chocolat, par exemple. Est-ce qu'on peut s'en passer, ça, d'ailleurs? C'est une question qu'on se pose tous, hein. Est-ce que ça, on peut le prendre alors que ça fait 2000 km en bateau? Comment on fait ça par rapport quand on est consommateur, en fait, pour essayer de respecter un petit peu les enjeux environnementaux et d'essayer de respecter aussi des systèmes agricoles alternatifs?
C'est une vaste question. Chacun a ses limites et ses priorités. C'est très difficile et délicat de se poser en ayatollah et dire ça c'est interdit, là tu as droit. Bon. Mais quelque part, il faut aussi se rendre compte que moi aussi je suis consommateur. Tous autant que nous sommes formatés par ce système. Par exemple, sur les semences paysannes, moi je suis productrice de légumes, j'ai toujours travaillé en vente directe, mais il y a une part d'autocensure de ma production. Je ne peux pas emmener des carottes fourchues sur le marché. Si, s'il y en a une sur 100, OK. Et moi, en tant que consommatrice, je sais que j'ai mes limites parce que je ne connais pas tout. C'est plutôt remettre l'agriculture et peut-être, je dirais, retrouver un contrat social entre les différents acteurs de notre société qui est trop spécialisé, quoi. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas fondamentalement capitalistes, méchants. C'est pas ça, la question. Ignares, bêtes, bornés. Mais essayer de vivre un peu plus ensemble, quoi. Par exemple, les AMAP, ça a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de gens dans les AMAP qui se sont aperçus qu'effectivement, il y avait des saisons.
Et qu'on peut manger du chou pendant plusieurs mois.
Oui, mais les tomates, à grande surface, elles y sont toute l'année, mais pas au jardin.
L'idée aussi de réintroduire un peu de complexité là-dedans, dans cette profusion qui est proposée aux consommateurs et aux consommatrices, d'avoir comme ça des choses qui apparaissent de manière magique sur les étals. Ce qui est magique ne l'est jamais, mais en arrière-plan, ce dont nous n'aurons pas le temps de parler aujourd'hui, mais que peut-être nous aborderons dans un prochain épisode aussi, de prendre conscience que plusieurs modèles de production peuvent coexister sur des marchés mondiaux et ne pas avoir un seul système de production agro-industriel qui est le même partout, qui alimente un seul marché de consommation qui est le même partout.
Mais moi, je dis toujours, nous mangeons au nom du droit des peuples autochtones et des communautés locales et des droits humains. Nous, on doit laisser tous les peuples consommer ce qu'ils veulent, où ils veulent et quand ils veulent. Et nous, en Afrique, nous mangeons africains.
Je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir été des nôtres pendant cette conversation. On a essayé quand même dessiner un paysage. Claude Giraud, de la Confédération Paysanne, membre de Via Campesina, qui défend une vision paysanne de l'agriculture, mais pas seulement. Aussi revoir un peu ce qui... Tous ces travaux, si vous ne les connaissez pas, Serge de Bouzourouna, qui est une ferme-école libanaise. Je ne prononcerai pas le nom de la ville car je ne vais pas y arriver. Et Patrice Sagbo, qui était avec nous depuis le Bénin, membre de Jinkoun, organisation de défense des semences paysannes. Vous écoutiez le troisième épisode de cette saison 3 d'À l'écoute des solidarités, un podcast enregistré depuis les universités d'été des mouvements sociaux à Bobigny. Un podcast écrit et animé par Violette Voldoir et Germain Filoche, avec Swann Blanchet à la réalisation et Alice Gall à la production, avec évidemment un public qui était là avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis, écoutés. Vous retrouverez bien sûr les précédentes saisons sur toutes les applications de podcast, ainsi que les deux premiers épisodes et les suivants de cette saison d'À l'écoute des solidarités. Merci à vous.